Le 5 novembre 2018, l'effondrement de deux immeubles rue d'Aubagne provoque la mort de 8 personnes. 6 ans plus tard, les propriétaires, bailleurs, syndics, experts, élus, sont jugés pour leur inaction malgré les signalements répétés sur le délabrement des bâtiments. Depuis le début du procès, le 7 novembre, des greffiers populaires sont présents et prennent des notes. Des crieurs et crieuses publiques racontent le procès chaque semaine, les mercredis à 17h à l'angle Belzance-Canebière et à 17h45 place Halle de la Croix, les vendredis de 17h à 17h45 sur la Plaine et les samedis à 11h et 11h45 place Cadena. L'enregistrement qui suit a été pris lors d'une criée publique.
L'office sur des immeubles pouvait être effectué après signalement.
Des travaux d'office, c'est des travaux d'urgence et de mise en sécurité à effectuer dès le signalement.
D'après le budget de la mairie, 6,5 millions d'euros étaient alloués à ça. On apprend que seuls 350 000 euros ont été utilisés. Et encore, pour des diagnostics qui ne réparent rien. Le président du tribunal demande...
Pourquoi l'argent n'a pas été utilisé ?
Julien Ruas, vous vous souvenez ? Ancien adjoint de Baudin, élu à la prévention des risques, répond.
Il nous faut un propriétaire défaillant. Ils n'ont pas été défaillants qu'à hauteur de 350 000 euros. Très souvent, les propriétaires faisaient les travaux eux-mêmes.
Et pourtant, à Marseille, nous sommes à 40 000 logements indignes déclarés.
Puis, Ruas s'agace et s'emporte.
J'ai les épaules larges, mais je ne peux pas porter à moi tout seul toute la responsabilité de la ville de Marseille de ces 25 dernières années.
Alors le procureur lui demande...
Si vous étiez conscient des dysfonctionnements, avez-vous pensé à démissionner ?
L'intéressé répond...
Non, j'avais foi en l'administration, j'espérais que les moyens puissent arriver. Puis vient à la barre Edith Point, qui travaille à la mairie de Marseille comme technicienne territoriale et conseillère prévention. Elle est passée au service de prévention de gestion des risques. Le tribunal questionne.
Peut-on revenir sur le fait que personne ne répondait aux appels après 10 heures ?
Edith Point répond.
On était tellement peu nombreux que le matin, on essayait d'être là, mais l'après-midi, quand on était sur le terrain, c'était difficile.
Faisiez-vous des travaux d'office ?
Très peu.
Pourquoi ?
On était débordés. Les seuls travaux d'office que j'ai réalisés, c'est quand on évacuait et qu'on voulait neutraliser. Alors, on murait la porte. Ensuite, Edith Pointe revient sur le rapport Nicole. Une étude ministérielle sur la réhabilitation des logements à Marseille en 2015. Inutile de vous dire que la mairie de Godin a peu apprécié le constat peu flatteur de son administration. Il paraît même à l'époque, d'après Madame Fructus, que Godin lui aurait dit dans son bureau
« Mais enfin Arlette, à Marseille, il n'y a pas d'habitat indigne !»
Bref, les services où travaillait Edith Pointe devaient suivre les préconisations de ce rapport Nicole. Pourtant, elle affirme qu'elle n'était pas au courant des 6,5 millions d'euros alloués à sa mission.
Pourquoi ?
Elle évoque un fonctionnement de clan entre les services. Par exemple, les services de l'habitat et de l'hygiène ne communiquaient pas du tout.
Elle dit pourtant traiter tous les signalements qu'elle reçoit, mais...
Prioriser selon l'importance des pathologies bâtimentaires.
Elle est donc obligée de classer les dossiers en deux catégories. Le péril ordinaire et le péril imminent. Un avocat lui demande... Ne pensez-vous pas que le péril ordinaire précède le péril imminent ?
Tout à fait.
L'avocat reprend. Ne pensez-vous pas, madame, qu'une bonne politique serait de traiter tout de suite le péril ordinaire comme un péril imminent ?
On ne peut pas dire le contraire.
Jingle !
Le procès de la rue de Bagne raconté dans la rue par les crieurs publics.
Maintenant, on retrouve la rue d'Aubagne. Ses propriétaires, ses experts et ses habitants. Arrive Frédéric Berthoz, propriétaire du 67 rue d'Aubagne, administrateur de biens du cabinet Berthoz et consul du Niger.
Lui avait remarqué les fissures dans le mur mitoyen du 65. et devant l'absence de réponse des propriétaires voisins, il entame une procédure judiciaire qui conduit à la désignation d'un expert, Reynald Filiputi.
Filiputi adresse en 2014 un courrier adressé à la sécurité civile de l'hôtel de ville. L'expert évoque un affaissement du 65 et des poutres minées par la pourriture. Surtout, il parle clairement de danger pour les habitants de l'immeuble.
Alors, quand on entend ensuite Maurice Benigni, retraité des services des périls, qui est venu en 2015 faire une expertise du 65 rue d'Aubagne, on comprend qu'il n'y a pas eu connaissance du rapport. Devant le 65, il affirme que la porte est fermée, alors il visite le 67 et conclut que manifestement, il n'y a rien de dangereux.
Des courriers et des signalements sont projetés sur les écrans du tribunal. Finalement, Benigni et son chef de service suanaise n'ont pas les mêmes versions des faits et parfois semblent se rappeler d'avoir eu connaissance de certaines informations.
Benigni change de version en direct et est forcé d'avouer qu'il avait levé un signalement sur le 65 sans être allé sur place. Le président le menace.
Je vous rappelle qu'une fausse déclaration devant un tribunal est un délit passible de 5 ans de prison.
Jingle.
Le procès, le récit du procès du effondrement de la rue d'Aubagne qui a lieu en ce moment à la caserne du Puits. Vous êtes racontés par les crieurs publics.
Jeudi 28 novembre.
Ce jour, on s'intéresse au 63 rue d'Aubagne. Un immeuble resté vide et non entretenu pendant de longues années. Les enquêteurs s'y sont intéressés car Marseille Habitat, après son achat en 2013, y a réalisé des travaux de déstructuration et de déconstruction qui ont fragilisé la structure. Le président du tribunal demande.
Vous cassiez les cloisons à tous les étages dans tous les appartements ?
Christian Gilles, ancien directeur de Marseille Habitat. Je ne me souviens plus précisément pour le 63, mais c'est ce qu'on faisait habituellement. Tout ce qui permettait d'alléger la structure de l'immeuble était bienvenu.
En vérité, casser les cloisons a pour objectif de rendre les appartements inhabitables et ainsi d'éviter le squat. Mais les experts lui donneront tort.
En cassant des cloisons, on transfère les charges ailleurs, mais de manière non réfléchie. C'est catastrophique.
Entre 2014 et 2016, une banderole.
Marseille Habitat rénove votre logement.
Trône sur la façade du 63. Une avocate des parties civiles demande.
Est-ce que cette banderole n'avait pas pour but de cacher des fissures de la taille d'un homme? De faire en sorte que les riverains ne signalent pas l'état de la façade?
Jingle.
Le procès du effondrement de la rue d'Aubagne.
Les crieurs de Marseille vous font un compte-rendu du procès des effondrements de la rue d'Aubagne.
Vendredi 29 novembre, coup de tonnerre. Pendant la nuit, des affiches « Cacheurs assassins » ont été placardées dans la rue du tribunal. Carta dit aussi avoir reçu des jets de pierre vers la gare Saint-Charles. C'est aussi le grand retour de Jean-François Valentin, vous savez, le malade intermittent, le gestionnaire du syndic du 65 rue d'Aubagne. Le président l'interroge.
Vous avez indiqué que vous deviez tirer les oreilles à certains copropriétaires du 65 pour qu'ils payent les charges. Quel propriétaire?
Je donne les noms?
Oui, on est là pour ça.
Hardy et Fartou.
Le premier était le propriétaire de la famille Saïd Hassani. Le second, des caves.
Le président du tribunal diffuse les synthèses des assemblées générales de la copro. Réparation de l'encadrement de la porte d'entrée de l'immeuble.
Rejeté à l'unanimité.
Réfection de la peinture de la cage d'escalier.
Rejeté à l'unanimité.
Réparation des boîtes aux lettres.
Accepté.
Rénovation et purge des façades.
Rejeté à l'unanimité.
Diagnostic visuel de l'immeuble.
Deux ont voté contre. Michel Marx de Bonneto et Xavier Cachard. Deux propriétaires qui sont sur le banc des prévenus aujourd'hui. Sont-ils au courant qu'un expert vient d'émettre un signalement très sérieux sur leur immeuble? Michel Marx Bonetto.
Je ne me souviens plus, je suis très fatiguée en ce moment.
Gilbert Ardilly.
Je ne sais pas, je n'étais pas présent. Je n'ai jamais assisté à une assemblée générale.
Mais est-ce que vous receviez les ordres du jour des assemblées générales?
Je ne sais pas, j'ai une vie assez dure. J'ai une vie professionnelle assez dure.
Moi aussi, monsieur, mais je vais aux assemblées générales.
Eh bien, moi, je n'y arrive pas, je ne suis pas un investisseur.
Pourtant, vous êtes propriétaire de plusieurs appartements et c'est qu'aujourd'hui que vous réalisez qu'il faut aller aux assemblées générales.
Xavier Cacher, lui, s'émeut.
J'ai été présenté dans la presse comme un monstre sans compassion. Toute la presse a été unanime. Et même si on m'a qualifié de sexagénaire volumineux, je ne suis pas sans âme.
Pourtant, à son propos, le tribunal diffuse des échanges par mail. Cacher, en qualité d'avocat, écrit à l'expert Cardi et lui demande explicitement et par des voies juridiques à repousser les travaux et même à trouver un prétexte pour faire annuler l'arrêté de péril.
Retour en arrière. Lorsqu'en 2017, le plancher du premier étage s'effrite à cause d'un dégât des eaux, un arrêté de péril grave et imminent est pris le 9 janvier. Une avance spéciale de travaux est mise à l'ordre du jour la semaine suivante. Elle est rejetée à l'unanimité.
À la même période, Simona alerte sa propriétaire sur l'apparition de fissures qui informe immédiatement le cabinet Lyotard. Elle veut inscrire le sujet à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. Le cabinet Lyotard répond par la négative.
Jean-François Valentin du cabinet Lyotard vient pourtant de promettre que chaque demande de propriétaire est automatiquement inscrite à l'ordre du jour de l'AG. Il dit n'avoir jamais reçu ce mail et accuse la secrétaire.
Elle a mal fait son travail.
Jean-François Valentin est alors victime d'un malaise.
Jingle.
Le procès de l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne.
Que celui ou celle qui ici ne connaît pas quelqu'un qui vit dans un habitat indigne, lève la main.
Lundi 2 décembre, à 9h, ça commence par une bataille de procédure. L'expert Philippe Huty, témoin central dans l'affaire, étant indisponible, prétendant être très malade, les avocats de la partie civile et des prévenus souhaitent entendre comme témoin la juge qui avait mandaté celui-ci.
C'est très rare que les avocats des accusés et des victimes soient d'accord pour faire comparaître un témoin.
Pourtant, le parquet et la juge refusent. Tollé dans l'assistance. Le tribunal délibère et donnera sa réponse le mardi.
Puis le président demande à Richard Carta, l'expert judiciaire qui a effectué la dernière expertise lors de l'évacuation du 65 rue d'Aubagne le 18 octobre 2018, deux semaines avant les effondrements. À l'époque, il avait autorisé les occupants à regagner leur domicile, hormis le premier étage.
Richard Carta retrace minute par minute son parcours dans l'immeuble. Il avoue ne pas avoir vu la porte de la cave ni parler aux habitants évacués par nacelle et qui attendaient dans la rue derrière un cordon de sécurité.
À la fin de son expertise, il affirme que d'après ce qu'il a vu, rien ne pouvait laisser présager que le 65 rue d'Aubagne s'effondre. Surtout qu'il affirme ne pas être au courant des procédures de péril en cours sur l'immeuble, ce que le responsable des périls à la ville de Marseille dément. Une assesseur demande à Richard Carta.
Vous dites souvent, si j'avais vu ça ou fait ça, ça n'aurait rien changé. Mais quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. On ne sait pas à l'avance. On ne sait pas si c'est important d'aller dans la cave tant qu'on n'y est pas allé. On ne sait pas ce que va dire un occupant tant qu'on ne lui a pas demandé.
L'audition se poursuit l'après-midi. Richard Carta continue de raconter sa visite du 18 octobre. Il se justifie de ne pas avoir parlé aux locataires.
Pourquoi est-ce qu'il y aurait une partialité à demander des informations aux locataires, demande le président. Non.
Parce qu'on peut être au contact de squatteurs, on peut être au contact de propriétaires et de plein de gens qui peuvent influencer l'expert.
Puis plus tard, il change sa version pour la première fois en 6 ans. Il soutient avoir préconisé l'évacuation des 2 appartements du premier étage, côté cour et côté rue. Or, ce n'est pas ce qu'il a écrit. Ouloumé et ses 2 fils, au premier étage côté rue, n'ont jamais eu la consigne d'évacuer.
Le 5 novembre, 3 semaines après cette visite décisive, l'immeuble s'effondre à 9h07. L'immeuble s'effondre à 9h07.
Fin de l'épisode 4. Suite du récit du procès la semaine prochaine. Même heure, même jour, même endroit, même procès.
Jingle. Agenda. Nous vous rappelons que le procès est public et que vous pouvez y assister tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9h en vous présentant à la caserne du Muy, rue Ahmed Litim, ex-Bugeaud, à la Belle de Mai.
Vous pouvez aussi suivre le procès dans la presse locale et notamment en accès libre sur le site Mars Actu. C'est pour nous une source fiable et précieuse d'informations en temps réel. Merci à toute leur équipe.
Vendredi 13 décembre, assemblée du suivi du procès pour savoir ce qui s'est dit au tribunal et soutenir les familles des victimes. Le 13 décembre à 19h, au cinéma Le Gyptis, rue Lobon, à la Belle de Mai, avec des projections d'images inédites et apéro.
Les crieuses publiques racontent le procès chaque semaine, épisode après épisode. Tous les mercredis à 17h, angle Canebière, Courbelzin. C'est à 17h45, place des Halles de la Croix à Noailles. Tous les vendredis à 17h et 17h45 sur la place Jean Jaurès à La Plaine. Tous les samedis à 11h et 11h45 sur la place Cadena à la Belle de Mai.
Vous venez d'écouter une criée publique racontant le procès des effondrements de la rue d'Aubagne. Des crieurs et crieuses publiques racontent le procès chaque semaine, les mercredis à 17h à l'angle Belzance-Canebière et à 17h45 place Halle de la Croix, les vendredis de 17h à 17h45 sur la Plaine et les samedis à 11h et 11h45 place Cadena. Vous pouvez aussi assister au procès à la caserne du Muy, 21 rue Bugeaud, du lundi au vendredi jusqu'au 18 décembre.